France Culture. Bienvenue dans Les Bonnes Choses, l'émission gourmande de France Culture qui marie saveurs et savoirs, qui active papilles et méninges autour d'un fait culturel majeur, l'alimentation. Des bonnes choses qui font aussi dialoguer les cuisines grâce à la présence du chef Maurice Acco, qu'on retrouvera comme chaque semaine à 12h25 pour sa chronique. Bonjour Maurice.
Bonjour Caroline.
Qu'est-ce que vous nous mijotez ce midi?
Alors aujourd'hui, je m'attaque à un gros morceau avec les pâtes.
À tout à l'heure. Mais pour commencer, nous avons rendez-vous chez un comédien pour un portrait chinois culinaire, comme nous avons coutume de le faire avec notre série Dans la cuisine 2. Lui est sociétaire de la Comédie française, il tourne aussi beaucoup au cinéma. Et s'il n'est pas un professionnel de la gastronomie, il est, au demeurant, un gourmet confirmé. En témoigne le sérieux avec lequel il nous a reçus chez lui, prêt à cuisiner. Il avait d'ailleurs déjà son tablier quand il a ouvert la porte.
Tout préparé.
C'est quoi que vous avez préparé?
Alors j'ai préparé de quoi faire un gratin dauphinois, et puis je vais faire aussi un foie gras, enfin deux foie gras en terrine. C'est un plat que j'aime beaucoup, même s'il n'est pas très 2025, j'ai honte de faire du foie gras. Mais c'est tellement bon le foie gras, voilà. Et le principe c'est que je prends des foies qui sont d'une ferme alsacienne où le gavage se fait sans que les oies soient gavées. Alors ça paraît étonnant, mais les animaux mangent beaucoup, quelquefois, comme les humains d'ailleurs, et ils développent aussi, quelquefois, leur propre foie gras. Alors ça prend beaucoup plus de temps, puis c'est des foie gras qui sont beaucoup plus chers, mais au moins on a une espèce de raisonnement un peu éthique sur on mange du foie gras où les bêtes n'ont pas, a priori, trop souffert, puisque c'est elles qui ont décidé de devenir stéatosées, comme on dit, parce qu'elles ont leur foie gras naturel, on va dire.
Bon alors on va aller s'installer à côté, on va sortir de la cuisine, alors on n'est pas très très loin hein, puisque la cuisine est ouverte sur le salon, et puis on reviendra quand les foie gras auront maturé.
D'accord, très bien.
On va s'installer à côté. Il y a une question rituelle dans cette collection Dans la cuisine 2, Laurence Tocquer, la question rituelle qui est, vous avez presque commencé d'y répondre, mais vraiment que en partie. Quel mangeur êtes-vous?
Je crois que je suis plus un gourmet qu'un gourmand, même si les deux sont liés. C'est-à-dire que je préfère manger des bonnes choses en petite quantité que des choses roboratives en grosse quantité. J'aime bien que la cuisine soit liée à quelque part quelque chose qui a à voir avec l'intellect. Moi, j'aime bien les choses qui sont un peu raffinées, qui sont quelquefois liées à la littérature même. J'aime bien me dire que, tiens, à telle période, on mangeait plutôt ça. Alors, par exemple, je prends un exemple assez concret, c'est l'oreiller de la Belle Aurore, qui est un pâté, pas très 2025 non plus, pour le coup. Je m'y suis intéressé il y a quelque temps et j'aimerais bien y goûter. La cuisine, c'est quelque chose qui, pour moi, est très important, puisque c'est ce qui relie les êtres, c'est ce qui relie à la famille, c'est ce qui relie à la terre. J'avais une arrière-grand-mère qui était cuisinière. Bon, alors forcément, ça crée des liens. Et donc, je la voyais petite, elle est morte quand j'avais 8 ou 9 ans, mais j'allais dans sa cuisine et elle faisait des frites au sein doux. Ce que plus personne ne fait, il n'y a pas plus gras. Mais elle les retournait une par une et bon, j'ai jamais retrouvé le croustillant de ces frites-là. C'était en Lorraine, dans la Meuse. Et puis ensuite, quand je suis parti dans les Vosges, j'ai fait des repas marquaires avec des repas où on marchait dans la neige. Et après, à la récompense, on arrivait au chalet, c'était la palette de porc, c'était les pommes de terre rissolées. C'était vraiment la cuisine paysanne, quoi. Et de cette cuisine-là, j'ai aimé comprendre qu'il y en avait une autre. Et cette autre cuisine-là, de grands chefs ou d'artistes, c'est cette cuisine-là qui m'intéresse aujourd'hui, même si j'adore faire les plats familiaux, encore une fois, pour avoir le lien avec le passé.
On peut descendre d'ailleurs dans la généalogie depuis l'arrière-grand-mère cuisinière. On peut descendre juste d'une génération avec le grand-père, parce que votre grand-père faisait, je crois, de l'alcool de Mirabel. Et vous adoriez ça, Laurence Tocquer?
Alors, j'adorais pas l'alcool de Mirabel à 8 ans. J'adorais voir mon grand-père remuer ces gros tonneaux bleus où il y avait des Mirabelles et puis il y avait des insectes dedans, des guêpes, des abeilles qu'on enlevait après quand le bouilleur de crue venait et que il faisait son alcool de Mirabelle. Et j'ai toujours de la Mirabelle chez moi. J'ai toujours aussi de l'alcool d'Églantine, qui est un alcool alsacien. C'est une maison qui s'appelle Mété qui fait ça en Alsace. Et c'est des alcools que j'utilise presque pas. Je les utilise en spray, en fait. Par exemple, à la fin du foie gras, je vais mettre un coup de spray d'églantine sur le foie gras pour qu'il y ait une touche un peu herbacée, un peu presque florale, qui ressemblerait presque à de la rose. Et comme j'ai grandi à côté de Bar-le-Duc, je sers ce foie gras avec une gelée de confiture de groseille et pépéinée à la plume d'oie, qui est une vieille recette du XIVe siècle et qui est toujours en cours. C'est une petite entreprise qui fait ça.
Je descends encore d'une génération, je passe au père. Vous avez dit une fois que la spécialité de votre père, c'était le gigot au curry.
Oui, alors mon père, il faisait le gigot d'agneau et puis il en avait marre de mettre de l'ail en chemise. Et puis un jour, il m'a dit, tiens, je vais essayer autre chose. Il voulait créer quelque chose. Il a mis un curry jaune, mais en très petite quantité. Tout le monde a dit, mais c'est formidable ça. Il a peaufiné sa recette. Maintenant, il est très fort en curry d'agneau. Voilà, et à 90 ans, il continue à faire ça. Et sans le savoir, il avait renoué avec un esprit un peu oriental de ses épices. Et l'agneau, effectivement, ça se marie très très bien avec le curry, et aussi en Inde. Mais lui qui a l'esprit très français, comme ça, entre guillemets, il a fait une recette totalement orientale. Ça, c'est des cuisines qui m'intéressent, les cuisines du monde, évidemment. Quand il n'y a pas la mixité culinaire chez les grands chefs, je trouve qu'ils loupent quelque chose. Il y a une mode actuelle, mais que j'aime beaucoup, qui est plutôt japonisante, et j'aime beaucoup ça. Par exemple, mettre du miso dans une blanquette de veau ou du yuzu pour relever le tendron de veau, c'est beaucoup plus intéressant presque que la crème épaisse et que le jaune d'œuf qu'on met à la fin, qui est magnifique aussi. Mais ce côté aérien comme ça, ce côté intellectuel de la cuisine, c'est ça qui me plaît. Voilà, c'est ça que j'aime en fait. C'est de transformer les recettes, et les grands chefs le font. On parle d'art culinaire et c'est important parce que je pense que c'est vraiment un art.
Vous nous parlez du rapport quasi intellectuel que vous avez avec la nourriture, historique, géographique, c'est aussi bien du temps, de l'espace, de la culture. Est-ce que ça veut dire aussi, puisque je suppose que c'est aussi littéraire, que vous vous nourrissez aussi dans les livres ?
Ah oui, je me nourris dans les livres, et d'ailleurs j'ai toujours cette littérature gourmande là, pas loin de moi, qui est une littérature où les grands auteurs parlent de cuisine. Évidemment, Dumas étant l'exemple le plus... Mais j'ai toujours aussi la cuisine du Sud, le reboul à la maison, j'ai les cuisines du monde, j'ai aussi bien Otto Lenghi aussi, enfin, ou Big Mama.
Ça, c'est très 2025.
Ça, c'est très 2025, Otto Lenghi surtout. C'est la mixité de la cuisine qui m'intéresse. À condition qu'il n'y ait pas trop de mélange dans le plat lui-même. Sinon, je trouve que gustativement, on se perd. Moi, j'aime bien les choses... qui sont reconnaissables aussi, parce que si vous allez dans un restaurant gastronomique et qu'à la fin du repas vous êtes incapable de dire ce que vous avez mangé, c'est quand même dommage. Et il y a beaucoup de restaurants aujourd'hui, je trouve, où on sort de table et on ne sait plus où on en est, entre les fleurs qu'on a dégustées, le bouillon du début, avec, enfin voilà, on est perdu. Moi j'aime bien quand je suis pas trop perdu en cuisine, quoi. C'est comme au théâtre ou comme un film. Quand il y a trop de flashbacks dans un film, je me perds. J'aime bien une certaine c'est assez classique, en fait, je me dis en parlant. J'aime bien quand on, quand même, on a un souvenir de ce qu'on a mangé, même si toutes ces sensations culinaires sont un peu inconnues. Si on a le fil, par exemple, d'un umami, moi j'aime bien que ça reste un peu sur pendant le repas, pendant toute la durée du repas. Une eau de tomate, si elle est servie en dessert, ça me gêne pas, parce que j'aurai à nouveau l'umami qui va faire mon fil d'Ariane, quoi. Voilà. J'avais cette habitude, comme j'adore cuisiner, quand j'étais beaucoup plus jeune, vers 25 ans, je mélangeais plein de choses et j'invitais des amis qui me disaient « Waouh, incroyable, mais qu'est-ce qu'il y a finalement dans ce plat ?» J'étais incapable de le dire parce que je le notais pas, et que je fais aussi un peu avec la cuisine du marché. Je voulais faire trop bien. Et puis parfois, quand on veut faire trop bien, on veut faire aussi de la peinture dans l'assiette, ce qui est bien aussi. Et c'est des petits tableaux, mais il faut faire attention à ce que les aliments puissent se répondre les uns les autres. Je me souviens d'Alain Passard qui m'avait raconté une anecdote extraordinaire. Il avait vu des oignons d'une certaine couleur sur un marché dans les Cévennes, et il s'était dit, tiens, c'est exactement la même couleur que le Parmigiano Reggiano de tel producteur. Et il s'est dit, je vais les marier tous les deux. Et il a fait ce plat magnifique qui est un gratin d'oignons au parmigiano reggiano. Et il rajoutait un poivre sarawak dessus pour donner le côté noir et blanc. Quand dans l'idée, on vous dit, vous allez manger un gratin d'oignons, ouais, bon. Puis quand vous le goûtez, j'étais à côté d'un camarade de la Comédie Française qui s'est mis à pleurer parce qu'il était très ému par des simples oignons et mélangés avec le parmigiano reggiano et le poivre sarawak. Les grands chefs, c'est des gens qui arrivent à vous faire aimer ce que d'habitude vous n'aimez pas.
C'est si bon. Lovers say that in France, when they thrill to romance, it means that it's so good.
Vous figurez, Laurent Stocker, au casting d'un film dont la cuisine est au cœur de l'intrigue, tourné en 2025, La petite cuisine de Mehdi.
La petite cuisine de Mehdi, c'est un film d'Amin Adjina qui est sur un peu sa vie aussi. Un garçon qui arrive d'Algérie et qui devient chef dans une cuisine et il n'ose pas dire que sa mère est sa mère parce qu'il a une petite copine française. Et voilà, c'est tous les non-dits sur une génération comme ça, très bien raconté par Amin Adjina. Et moi, je fais le père de la jeune femme qui va se marier avec le cuisinier en question, qui s'appelle Mehdi. Et ils se retrouvent tous dans un restaurant que Amin aime beaucoup et que moi, je connaissais bien parce que j'ai habité 20 ans à côté. C'était le Baratin rue Jouyrouve à Belleville. Et puis, il y a tout ce qu'il y a autour du baratinage, du fait de qu'est-ce qu'on dit à ses parents quand on est amoureux et qu'est-ce qu'on a envie que l'amoureuse ait comme beau-parent. Enfin bon, c'est une comédie. Hein, donc voilà. Moi, je fais juste une participation dans ce film. J'ai pas un très grand rôle, mais d'abord, j'aime beaucoup Amine. Et puis, j'ai aimé beaucoup sa façon de raconter la cuisine parce que c'est un grand passionné de cuisine aussi.
Vous avez vécu 20 ans à Belleville, à Paris. Et vous avez déménagé, vous êtes maintenant dans le 12e, vers le Drurolin. Est-ce que vous êtes aussi content de ce que vous trouvez comme producteur, marché, restaurant, supermarché, épicerie que vous l'étiez à Belleville? Est-ce que vous avez deux, trois adresses à nous donner?
Il y a beaucoup de choses ici qui sont passionnantes. On est quand même près du marché d'Aligre. Il y a des volaillers d'exception, il y a des bouchers d'exception, il y a des poissonniers d'exception. Et puis, il y a quelques adresses de restaurants comme Passerini, et puis le bar à vin Passerina, et puis Pastificio. Ça, c'est une adresse où je vais souvent parce que j'aime beaucoup la façon dont Giovanni cuisine. Mais aussi, je suis très heureux d'aller manger une pizza chez Gemma, juste en face, qui est un autre Giovanni aussi. En fait, on est dans un quartier ici, près de Bastille, qui en fait est un quartier, alors c'est pour ça que c'est intéressant et les hasards sont étranges, qui était un quartier de menuisiers, de gens qui travaillaient les meubles, mais des immigrés italiens. Et il y avait beaucoup d'immigration italienne ici, et il y a cette tradition encore de restaurants italiens. Donc voilà, c'est les restaurants où je vais, mais j'aime beaucoup le marché d'Aligre, que ce soit à l'extérieur ou l'intérieur du marché. Et puis aller acheter les volailles là-bas, ils ont des choses magnifiques. À Belleville, c'était vraiment la cuisine du Wenzhou. Et j'avais un restaurant que j'aimais particulièrement à Belleville, c'était où je vais toujours, c'est le Lao Siam, qui est au 49 rue de Belleville. Et c'est devenu des amis parce que je les connais depuis 25 ans. Ils ont fêté les 40 ans du restaurant il n'y a pas longtemps d'ailleurs, et c'est la cuisine laotienne et thaïlandaise. Et ces mélanges-là, encore, comme je disais tout à l'heure, je me suis servi d'épices, de citronnelles, de choses qu'on trouve, alors pour le coup, vraiment qu'à Belleville. C'est vrai que tout ce qui est poivre, etc., épices, je fais une petite impasse sur la taxe carbone parce que c'est vrai que les épices, ça vient de loin et il faut en mettre dans la cuisine, c'est magnifique.
Puisque vous parlez d'épices, il se trouve, Laurent Stocker, que vous êtes aussi parrain d'une association qui s'appelle Épices, qui a été fondée en 2009 et qui œuvre à l'insertion par la cuisine. Vous aimez beaucoup cette association?
Oui, j'aime beaucoup cette association parce que c'est une association qui retrouve le goût du collectif. J'y suis allé il n'y a pas si longtemps, il y a trois lieux à Mulhouse. C'est une recette aussi du vivre ensemble. Par exemple, il y a un lieu qui est un EHPAD. Les cuisiniers viennent et les résidents participent au repas qu'ils élaborent le matin pour le manger le midi. C'est la liberté, le partage, l'inclusion qui mijote chaque jour dans les cuisines. Donc, pouvoir se dire qu'on peut ne pas laisser les gens sur le côté, et pouvoir se dire qu'on peut les réintégrer ou les intéresser en leur faisant faire la cuisine, c'est une chose magnifique. Et je suis très heureux de faire partie de cette association qui a besoin de soutien. Donc je vous en supplie, cliquez sur Épices et faites un don. Et cette association, elle est primordiale parce que elle rassemble les gens et elle permet de les intégrer ou de les réintégrer s'ils se sont un peu égarés ou s'ils ne savent plus trop bien où ils en sont. J'ai eu beaucoup de demandes d'être parrain d'association et je dis la vérité, je n'ai pas le temps de m'en occuper. Mais Épices, j'y passe du temps, j'y suis allé et c'est un endroit magnifique parce qu'on oublie d'où on vient et on voit où on va, comme dit Beaumarchais. Ne regarde pas d'où tu viens, vois où tu vas.
Les bonnes choses sont dans la cuisine ce midi du comédien Laurent Stocker. Cuisine ouverte, très lumineuse, avec deux grandes fenêtres blanches. Comment avez-vous pensé votre cuisine ?
J'ai pensé ma cuisine quand j'ai fait les travaux ici. J'ai dit à l'entrepreneur, je veux la cuisine de Chaplin. Elle m'a regardé bizarrement, mais c'est quoi ? J'ai dit, c'est une cuisine noir et blanc, où on peut aller vite, où on peut vider le lave-vaisselle et mettre dans les placards sans avoir à faire 50 pas, où on peut mettre le plat au four sans avoir à courir, où on peut avoir une plaque à induction full zone, où on peut mettre jusqu'à 8 casseroles qui chauffent séparément les unes des autres. Voilà, avoir tout à portée de main pour pouvoir, sans aide, parce que j'aime être seul dans ma cuisine. Parce que si vous avez quelqu'un avec vous qui dit « je t'aide à faire ça », en fait, il n'aide pas, il gêne.
Bon, je vais vous faire travailler maintenant, c'est-à-dire que vous allez cuisiner et vous allez tenter de décrire à chaque fois ce que vous faites pour nos auditeurs et nos auditrices pour leur donner une image radiophonique, une image mentale de ce que vous faites. Vous venez d'ouvrir une boîte à épices, vous lavez les mains.
Ça, c'est le rituel. Moi, quand mes enfants cuisinent, s'ils n'ont pas passé leurs mains à l'eau, ils ont interdiction de rentrer dans la cuisine. C'est une épice que je mets sur les foie gras qui sont dévenés, évidemment. Et ensuite, je les badigeonne avec cette épice. Un mélange pour foie gras, c'est un poivre des épices qu'on trouve place de Fürstenberg.
À Paris, dans le 6e.
À Paris, dans le 6e, il y a une épicerie géniale avec plein de poivres. Et comme chez Rollinger, on trouve des choses. Par exemple, le mélange pour le foie gras, c'est quelque chose de fascinant. Je badigeonne un peu chaque côté parce que ça lui donne un goût vraiment unique. Il ne faut pas avoir peur d'en mettre. J'en mets pas mal. Ensuite, je mets un peu de fleur de sel et rajoute, moi c'est ma petite touche que j'aime bien, c'est je mets un peu de poivre kampot blanc du Cambodge. Voilà, je mets ça. Rajouter un peu de poivre sur le dessus seulement. Alors maintenant, je mets les foie gras dans les terrines. Je les tasse, mais ils se tassent assez bien parce que je les ai sortis du frigo à 8h du matin. Ensuite, je préchauffe mon four. Tout ça, je fais de tête. Hein. J'ai pas de...
Je remarque qu'il n'y a pas de recette.
Il n'y a pas de recette sortie. Je fais toujours un peu à ma façon. Quelquefois, c'est réussi. Quelquefois, un peu moins parce que... Il faut être un peu chimiste aussi pour faire de la grande cuisine. Il faut doser exactement pile poil. Bon, je le fais, hein, mais bon, je mets à 110. Voilà. Et ensuite, je fais chauffer de l'eau dans une bouilloire électrique. Sur les foie gras, je rajoute du cognac. En très petite quantité, je vais prendre une petite cuillère à café. Et je tasse avec la cuillère pour que le cognac rentre bien dans tous les pores du foie gras. Voilà, et une fois que j'ai mis ça, ce que je refais, je remets un peu de sel. Ensuite, je mets les foie gras dans un grand plat et je vais mettre de l'eau bouillante.
Vous les mettez au bain-marie ?
Je les mets au bain-marie. Et je les mets une heure au bain-marie. Il ne faut pas les faire cuire trop longtemps parce qu'ils rentrent trop de gras après. Il y a moins de foie gras. Je fais du mi-cuit en fait. Et pendant ce temps-là, peut-être que je
fais. Vous pouvez faire le gratin de finnois.
Voilà.
Alors, comment faites-vous votre gratin de finnois?
Alors, là, je vais déjà. J'ai oublié de sortir le beurre, ça, c'est une erreur. Je mets du beurre sur. Enfin, je beurre bien le plat.
Tout ça n'est pas ultra léger, hein.
Moi, quand j'étais enfant, il y avait moins 15 dans l'Est. Donc, on mangeait des pommes de terre, des choses comme ça. J'ai gardé ça. Mais c'est vrai qu'avec le réchauffement climatique, il va faire froid peut-être cet hiver, mais on ne va pas descendre en dessous de zéro à Paris. Donc, bon. Mais quand même, entre 0 et 5 degrés, un petit gratin de
finnois,
un foie gras, c'est pas mal.
Avec un coup de bluff.
Alors ensuite, il faut que je fais les pommes de terre, j'épluche.
Je remarque un geste assez précis et rapide.
Ben, j'aime bien ne pas passer trop de temps à faire les pommes de terre. C'est pareil, il faut que ce soit fin, mais pas trop fin. Enfin bon, c'est compliqué à expliquer aux auditeurs. Et ça va cuire une bonne heure aussi, ça. C'est prêt. C'est bien, parce que grâce à vous, je vais avoir un bon plat ce soir en rentrant de ma journée de répétition.
Vous cuisinez tous les jours?
Quand je peux, mais non, malheureusement, je cuisine de moins en moins, parce que comme je travaille beaucoup, je cuisine que quand je tourne. Si je fais pas de théâtre et que je tourne, je cuisine parce que j'ai mes soirées et j'ai mes week-ends. Et ce qui est une chose qui n'arrive pratiquement jamais en 25 ans, ça a dû m'arriver une fois. Alors là, je mets l'eau bouillante jusqu'à mi-hauteur des terrines. Voilà. Et j'enfourne.
Et vous enfournez.
Je vérifie à mi-cuisson s'ils n'ont pas rendu trop de gras, mais comme c'est des foie gras de qualité, normalement ils ne rendent pas trop de gras. Et là, je mets une heure.
À combien?
À 110. 55 minutes, disons. Alors, il y a deux écoles. Soit on met les pommes de terre toutes droites, mais le problème, c'est qu'il faut immerger totalement de crème pour que ça cuise bien. Donc moi, j'ai arrêté ça, j'ai pas le temps. Je mets tout en vrac, ça paraît un peu bordélique comme ça, mais c'est pas du tout le cas, parce que quand le plat sort, il est magnifique, il est bien, et avec la noix de muscade, ça va donner quelque chose de formidable. Le problème du gratin dauphinois, j'ai remarqué une chose, c'est qu'il faut le faire et puis le manger tout de suite après, parce que si vous le réchauffez, la crème devient une espèce de chose un peu... comme du beurre, je sais pas quelle opération chimique s'opère, mais c'est moins bon. Il faut le faire et le manger dans la journée, disons. Faut pas préparer. C'est l'inverse de la blanquette. Si je fais une blanquette, je prépare la veille, voire deux jours ou trois jours avant, sans faire la sauce tout de suite, en faisant la sauce à la dernière minute, mais parce que la viande, elle s'attendrit au bout de deux, trois jours, alors que le gratin dauphinois, bah, c'est pas ça. Il faut, j'en remets une, allez. Allez, soyons fous. Encore une patate. Il faut prendre des bonnes variétés de pommes de terre. Il faut prendre de la... Je me suis intéressé à un moment donné, mais j'ai oublié. Mais il y a tellement de variétés. C'est comme les tomates. Il y en a tellement. Il faut prendre des pommes de terre à chair ferme pour le gratin. Voilà. Donc là, je fais... Ah oui, oh là là. Il y a une chose essentielle. Ça, vous ne le dites pas, hein. J'ai oublié de couper de l'ail.
On ne dit pas que vous allez chercher dans votre congélateur votre l'ail.
L'ail qui est déjà coupé. Bio. Ah non, pas bio. J'en mets pas mal. Hein. Faut en mettre.
Oui, ça en fait beaucoup.
Oui, beaucoup. Ça sent bon dans toute la maison après. Quand ça cuit l'ail, c'est bon. Il y a l'ail noir aussi que j'aime beaucoup. Les Japonais adorent ça. Et vous mettez une petite slice d'ail noir sur une huître, par exemple. C'est un truc de fou. C'est comme... C'est mieux que l'escabèche. Il y a ça. Ensuite, je mets la crème.
Liquide entière.
Liquide entière.
Donc vous imbibez les pommes de terre de crème.
Mais pas trop, trop non plus. Voilà, ça c'est bien. Ensuite, je remets toujours un peu de sel, fleur de sel, c'est important. Un petit peu de poivre compote blanc.
Et indispensable.
Et indispensable, la noix de muscade. Alors ça, il faut en mettre pas mal. Moi, j'aime bien quand il y en a beaucoup. Si ça sent bien. Un appareil spécial qui fait les noix de muscade aussi. Voilà. Alors, les muscades. Et voilà. Et on enfourne.
Pas de gruyère râpée?
Jamais. Jamais. Ouh là là, quelle catastrophe. Si vous allez à Grenoble et que vous commencez à mettre du grès râpé, c'est comme les gens qui mettent du grès râpé dans la quiche lorraine. Moi, comme j'ai des origines lorraines et alsaciennes, j'en mets pas. Après, je dis pas que c'est pas mauvais. Je dis que je préfère sans.
Eh ben, on va laisser ça cuire.
On va laisser ça cuire.
Et puis, bon appétit ce soir. Votre dîner me semble délicieux.
Vous savez, un plat comme ça de gratin dauphinois avec une belle salade verte, c'est suffisant.
Merci Laurence Tocquer.
Merci à vous.
12h25 sur France Culture, dans Les Bonnes Choses, c'est l'heure de retrouver Maurice Sacco et le dialogue des cuisines. Alors Maurice, c'est à vous.
Alors aujourd'hui, on va parler des pâtes. Donc on va commencer par mettre les pieds dans le plat. Non, les pâtes ne viennent pas d'Italie. Ils sont certes les plus gros consommateurs mondiaux, mais les pâtes sont originaires de Chine. Depuis que l'on a retrouvé en Chine un plat de nouilles datant de plus de 4000 ans, il ne fait plus de doute. On retrouve aussi des recettes de pâtes dans un traité babylonien datant de 1700 avant Jésus-Christ. En réalité, l'essor des pâtes est directement lié à la culture du blé, qui est lui cultivé depuis plus de 8000 ans avant Jésus-Christ. On réalisait déjà en Mésopotamie des pâtes grattées, nommées les risnatou, à base de farine et d'eau. Elles ressemblaient à nos spätzle alsaciens. Pardonnez-moi la prononciation, j'ai jamais réussi à le prononcer correctement. Une légende veut que Marco Polo, de retour de Chine, aurait ramené avec lui la recette des pâtes en Italie. Et en réalité, les Grecs, Romains et Arabes consommaient déjà des pâtes bien avant. Un plat était très populaire, le laganon, qui consistait à des bandes de pâtes coupées, puis déposées dans un plat avec une farce de viande ou poisson, des œufs et une sauce, une sorte d'ancêtre de la lasagne. Les recettes et formes de pâtes se sont donc simultanément développées de l'Asie à l'Europe en passant par la péninsule arabique et l'Afrique du Nord. Mais pendant tout ce temps, les pâtes se consommaient fraîches. L'invention des pâtes sèches nous provient d'Afrique du Nord, où les pâtes étaient confectionnées sous forme de petits tubes, puis mises à sécher pour être cuites plus tard dans de l'eau bouillante. La technique sera importée en Sicile via les invasions arabes, puis dans toute l'Italie et l'Europe. Les pâtes sont si populaires en Italie qu'au XIIIe siècle, c'est carrément la papauté qui établit les standards de qualité des pâtes. En France, on attribue à Catherine de Médicis la popularisation de la recette, qu'elle apporta avec elle lors de son accession au trône de France. Puis plus tard, la recette arriva aux États-Unis via la migration italienne. Et nous voilà donc au complet. La pâte est maintenant présente sur tous les continents. C'est assez fou de voir comment les recettes voyagent à travers le monde au gré des mouvements de population ou apparaissent spontanément à différents endroits du monde grâce à la présence d'un ingrédient. Pour nos pâtes, c'est un PD2. On va donc conclure sur un match nul entre l'Italie et la Chine sur le sujet, car elles ont de tout temps fait figure de leader sur les pâtes ou les nouilles. J'ai fini avec une recette de pâtes bien française. Les macaronis à la truffe, céleri et foie gras du chef Jean-Louis Lomikos. Un classique de la cuisine française moderne, une recette dont je suis personnellement fan. Donc, faire blanchir dans le lait des macaronis zita. La variété de pâtes est très importante. Puis les réserver. Réalisez votre farce en taillant fine brunoise, du céleri rave, puis les tuer. Ajoutez de la truffe noire hachée, puis hors du feu, du foie gras en brunoise et mélangez délicatement en laissant légèrement fondre. Mettre votre farce en poche à douille, puis garnir un à un vos macaronis blanchis. Disposez-les côte à côte, puis nappez avec de la crème réduite et râpez du parmesan en-dessus. Faire gratiner le tout et le servir avec un jus de veau réduit. Franchement, goûter cette recette, c'est ne jamais l'oublier. Bon dimanche.
Merci Maurice Sacco. Toutes les informations, les adresses, les références sont à retrouver sur franceculture.fr. Pour télécharger cette émission et toutes les autres bonnes choses de la chaîne, rendez-vous sur l'application de Radio France. Les bonnes choses ont été préparées avec Léa Varin et Jean-Christophe Francis à la réalisation. Nous vous souhaitons une excellente journée à l'écoute de France Culture.